Radio Vanet.
Bienvenue sur notre émission consacrée au blues. Guillaume va nous en toucher quelques mots. Emma va nous parler des caractéristiques musicales. Nous aurons Jean-Marc Miel, chanteur et joueur d'harmonica, qui va nous expliquer sa vision des choses. Puis Lisa, Luan, Hortense vont nous donner quelques informations sur l'histoire des États-Unis. Léa et Lou, un petit rappel des Blues Brothers. Perrine, Anna et Anna-Mélie nous parleront de Green Book, leur coup de cœur cinéma. Et nous clôturons cette émission par une improvisation des Taminales, musique, sur Sweet Home Chicago. Bonne écoute!
Divertissement, actu, événement, partage, info.
Bienvenue sur votre radio!
Pour commencer cette ouverture culturelle, nous allons parler d'un style de musique bien distinct, un style de musique qui influença presque toute la seconde moitié du XXe siècle, le blues. Ce style de musique est apparu au cours du XIXe siècle, il s'inspire principalement de chants de travail que chantait la population afro-américaine pendant la ségrégation raciale aux États-Unis. Le nom blues donné à ce style vient d'une expression américaine « devil blues » que l'on pourrait traduire par « idée noire », ce qui fait que les émotions abordées dans ce genre musical sont pour la plupart du temps la mélancolie ou encore la dépression. Le blues évolue par la suite dans le sud des États-Unis au début du XXe siècle et est joué uniquement par la population afro-américaine. Car à l'époque, la musique jouée par des Noirs devait être uniquement écoutée par les Afro-Américains, et la musique jouée par des Blancs uniquement écoutée par des gens Blancs. Il faudra attendre les années 60 pour que des groupes comme Jefferson Airplane ou encore Eric Clapton jouent du blues. Pour cette ouverture culturelle, j'ai décidé de faire passer un extrait d'un classique du blues américain, Sweet Home Chicago de Robert Johnson. Le blues influença de nombreux genres musicaux, dont un des plus importants du XXe siècle, le rock.
Bonjour, c'est Emma. Je vais vous présenter les caractéristiques du blues. Le blues se fixe progressivement pour aboutir sur une forme autour de 3 accords en 12 mesures. Cette structure se répète le temps de la chanson, c'est ce qu'on appelle la grille. Sur un rythme qui swing et qui groove appelé shuffle. On peut également voir que le blues se caractérise notamment par ses instruments, qui étaient à l'origine la simple voix accompagnée d'instruments rudimentaires comme le diddley bow, une corde fixée sur une planche, ou encore la washboard, une simple planche à laver. Ces instruments vont évoluer en guitare acoustique, en piano, en contrebasse, en harmonica ou encore en cuivre. Mais c'est avec le mouvement du Chicago Blues que la contrebasse va devenir une basse et que la guitare électrique va remplacer la guitare acoustique.
Demandons maintenant à Jean-Marc Miel, chanteur de blues et joueur d'harmonica, pourquoi il s'est passionné pour ce style.
Alors vous connaissez la voiture, la DeLorean de Retour vers le futur ? Eh bien, si on y monte dedans et qu'on fait un petit retour en arrière, alors on va s'arrêter dans les années 60, et là on va voir les Rolling Stones, très influencés par Muddy Waters, le roi du blues, ainsi que les Beatles, très influencés par Howlin' Wolf, Jimi Hendrix, Bob Dylan. Et si on continue un peu plus bas, on va tomber sur le roi, B.B. King, qui va nous dire que ses influences sont liées à des gens comme Muddy et Howlin'. Continuons encore, parce que la source du blues, ça sera évidemment la légende Robert Johnson. Mais ce ne sont que des noms. Et derrière ces noms, il y a des histoires qui m'ont beaucoup touché. L'esclavagisme, la ségrégation, les lois Jim Crow dans les États-Unis du Sud. Le fait que, quand on marche sur le même trottoir qu'un blanc, on risque sa vie. Mais je vois aussi des personnes qui ont eu la malchance de naître femmes, noires et pauvres, telles Billie Holiday ou Ella Fitzgerald.
Revenons à Robert Johnson. Si vous n'aviez qu'une seule anecdote à raconter, ce serait laquelle ?
Eh bien, Robert Johnson détestait la vie de métayer par-dessus tout, et surtout ramasser du coton. Il était passionné par la musique. Son centre d'intérêt principal, c'était la guitare, mais il jouait vraiment très bien de l'harmonica. Il a construit son premier instrument à cordes contre un mur, avec des bouts de fil de fer et trois bouteilles. En plantant quelques clous, c'est ce qu'on appelle un didebow.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions et votre improvisation à l'harmonica. Nous espérons vous écouter en direct très bientôt avec votre groupe Bluesy Buddies.
Petit point historique avec Lulu, Hortense et moi, Lisa. Luan, je me demandais comment fonctionnaient les pays avant la guerre de sécession ?
Avant la guerre de sécession, les États-Unis d'Amérique que l'on connaît aujourd'hui étaient divisés en deux parties, deux sociétés distinctes, opposées économiquement et politiquement. Tu avais donc les États du Nord et les États du Sud. Donc du coup, dans les États du Nord, tu as une politique plutôt abolitionniste, c'est-à-dire qui veut abolir l'esclavage, alors que dans le Sud, tu as une politique esclavagiste. C'est simple, sur 12 millions d'habitants, tu as 4 millions d'esclaves. Ce nombre est énorme parce que l'économie des États du Sud à cette époque est basée sur la plantation de coton, de riz et de canne à sucre cultivée par ces esclaves. Donc, la veille de la guerre de sécession, en 1860, l'utilisation d'esclaves est indispensable pour l'économie du Sud. Alors que dans les États du Nord, t'as une économie qui est beaucoup plus diversifiée, avec beaucoup plus de ressources agricoles, notamment grâce au climat qui est différent. Il y a un début d'industrialisation, et c'est ce qu'on ne retrouve pas dans les États du Sud. On parlera donc de l'industrie du textile et de la métallurgie qui se développe. Cependant, bien qu'une grande partie de la population des États du Nord était partisane de l'égalité entre les Blancs et les Noirs, certains États du Nord pratiquaient quand même la discrimination raciale. Certains établissements étaient interdits aux Noirs, ou alors les droits politiques des Noirs n'étaient pas forcément reconnus.
Qu'est-ce que la guerre de sécession ? Et la ségrégation ? Comment ça s'est passé ?
La guerre de sécession est donc de 1861 à 1865. Après de longues batailles dans le sud-est des États-Unis actuels, les États-Unis gagnent, avec malgré tout des milliers de personnes qui meurent, en particulier des centaines de milliers de civils. Grâce à la victoire des États-Unis, l'abolition de l'esclavage est prononcée, cependant les lois ne sont pas respectées dans les États du Sud. On voit donc apparaître la ségrégation raciale. Celle-ci apparaît petit à petit et des lois sont prononcées pour les imposer. La ségrégation raciale perdure. On voit donc une migration des Afro-Américains vers les villes du Nord. Là-bas, la ségrégation n'est pas imposée par la loi, mais le racisme est bien présent. Et à partir des années 1950-1960, de nombreuses personnes commencent à s'opposer en faisant des actions. On voit Rosa Parks qui refuse en 1955 de céder sa place dans un bus. Cet acte marque le début du mouvement des droits civiques aux États-Unis, mouvement dont faisait partie Martin Luther King. Encore aujourd'hui, le racisme est bien présent aux États-Unis et partout dans le monde. De nombreuses personnes se battent contre, comme le montre le mouvement Black Lives Matter, qui a pris une grande ampleur en 2020.
En tout cas, merci à Luan et Hortense de nous avoir expliqué tous ces petits points historiques. Et on vous dit à bientôt.
Salut, c'est Lou. Le mot blues vous fait peut-être penser au film Les Blues Brothers, et ça tombe bien puisque nous allons en parler aujourd'hui. Cette comédie musicale, considérée comme culte, est sortie en 1980 et a été réalisée par John Landis. C'est l'histoire de deux frères, Jake et Elwood Blues, respectivement incarnés à l'écran par John Belushi et Dan Aykroyd, d'anciens bluesmen devenus délinquants. Les frères Blues cherchent à gagner de l'argent pour épargner l'orphelinat dans lequel ils ont grandi. Ils ont exactement 11 jours pour payer la dette avant que l'établissement soit rasé. Ils décident alors de reconstituer leur ancien groupe de blues en voyageant à bord de la Bluesmobile dans l'espoir de récolter les $5,000 dus au bureau administratif des impôts de Chicago. Tout au long du film, on voit apparaître des chanteurs et musiciens très connus tels que Cab Calloway, Ray Charles, James Brown et Aretha Franklin. On retrouve également beaucoup de reprises comme par exemple Sweet Home Chicago, originellement interprété par Robert Johnson, dont Guillaume vous a parlé juste avant. on remarque que les Blues Brothers ont complètement revisité ce titre, qui à l'origine était seulement composé d'une guitare acoustique et de chant. Dans leur version, on retrouve de la batterie, de la guitare, du piano, mais aussi des cuivres, comme une trompette et un saxophone, avec bien sûr du chant. Le rythme est beaucoup plus rapide et beaucoup plus dansant. Je vais maintenant vous laisser écouter leur reprise. Merci beaucoup à Léa de m'avoir aidé à enregistrer cette rubrique, et on vous dit à bientôt!
Terminons cette émission sur le blues avec le coup de cœur cinéma.
Bonjour à tous. Perrine, Anna Mélie et moi-même allons vous présenter la rubrique film de cette émission. Nous allons vous parler du film Green Book de Peter Farrelly qui est sorti en janvier 2019. Attardons-nous sur le titre de ce film. Green Book est un guide pour les Noirs américains qu'ils utilisaient pour savoir où ils pouvaient aller, comme les hôtels ou les restaurants. Dans ce film, Tony Lip, un ancien videur du Bronx, va être engagé pour conduire et protéger un pianiste noir mondialement connu, le docteur Don Shirley. Tony Lip va devoir s'appuyer sur le Green Book pour trouver les hôtels et restaurants où le pianiste pourra être accueilli sans humiliation. Il va donc organiser sa tournée. Perrine a visionné ce film et va nous donner son avis.
Ce film biographique est dramatique et touchant avec son sujet sur la ségrégation raciale et l'homosexualité aux États-Unis dans les années 60. Cependant, on retrouve des moments humoristiques et joyeux qui nous font aimer ce duo et leur évolution tout au long du film.
Pourquoi me conseilles-tu ce film ?
Tout d'abord, ce film est tiré d'une histoire vraie, ce qui nous permet d'entrer dans l'univers des États-Unis des années 60. De plus, nous comprenons mieux dans quelle ambiance la population noire vivait à cette époque. Ce film peut être une bonne manière de nous sensibiliser au racisme et a également une fonction de devoir de mémoire qui me semble être très importante.
Voilà, notre cinquième émission touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Nous vous attendons le mois prochain pour une émission sur la place des médias dans notre société. D'ici là, portez-vous bien.
Radio Bonnet.